encore une fois un sujet, on va dire, d'actualité. Bonjour Marie.
Arnaud, bonsoir. C'est un objet un peu kitsch que beaucoup considèrent avec dédain. La boule à neige mérite d'être secouée car elle se révèle plus complexe qu'elle en a l'air. Le metteur en scène Mohamed El-Khatib a décidé, lui, de s'y pencher sérieusement. Et c'est avec vous, Patrick Boucheron, qu'il a choisi d'arpenter l'univers de cet objet populaire. En tant qu'historien, est-ce que la boule à neige peut être un outil d'étude ? Est-elle, peut-être parce qu'elle est en soi inutile, humble aussi, témoin d'une époque ?
Alors, témoin d'une époque, oui, certainement, mais laquelle ? Celle, effectivement, qu'elle tente de protéger humblement, de manière frêle et délicate, c'est-à-dire un souvenir. Hein. Au départ, c'est ça, une boule à neige. Ça protège un souvenir, c'est la mise sous cloche d'un fragment du passé, d'un pays ou d'une personnalité. Et en même temps, nous, ce qu'on pense, c'est que ça a quelque chose à voir aussi avec l'avenir. C'est-à-dire que je pense que si vous me posez la question comme historien, je vous dirais que la boule à neige, elle est née à la fin du 19e siècle, contemporaine de l'urne funéraire, donc c'est un objet de deuil, et de la boule de divination. C'est la boule des voyantes, vous voyez, c'est celle qui prédisent l'avenir. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça.
Du passé et du futur.
Oui, des ruines, des décombres du passé où tombe voilà quelque chose que... C'est quoi une tempête de neige selon l'humeur, c'est gai, c'est enfantin. Et là, on dira que la boule à neige est une sorte d'enfance portative qui est indemne de l'inquiétude de l'enfance. Y aura-t-il de la neige à Noël ? Ça, c'est la question des enfants. Y aura-t-il de la neige à Noël ? Dans une boule à neige, oui, toujours. Il suffit de la retourner, ça revient. C'est sans coup férir. Mais si on voit autre chose dans cette neige tombée, quelque chose, qui a à voir avec le deuil, enfin, ou en tout cas les cendres, enfin, en tout cas les retombées du passé, on est plus mélancolique.
Quand vous avez préparé ce spectacle, cette performance avec Mohamed El-Khatib, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Est-ce que par exemple la rencontre avec les collectionneurs, puisque dans ce spectacle, on entend le témoignage de plusieurs collectionneurs internationaux, hein, d'ailleurs de boules à neige, est-ce que cette rencontre-là vous a appris des choses sur l'humain ?
À beaucoup. C'est d'ailleurs à partir de là qu'on a commencé à travailler, puisque... Le sujet qu'on s'était choisi d'une manière qui ne paraît évidente qu'aujourd'hui, parce qu'on se dit, ah bah oui, d'accord, ok, c'est une sorte de métaphore du confinement, mais enfin, sauf qu'on avait commencé avant et avec autre chose en tête. Cette autre chose, on peut le deviner, c'est le rapport entre l'art légitime et les pratiques populaires méprisées. Donc, avec Mohamed El-Khatib, vous le connaissez, il fait un théâtre documentaire, on va dire, enfin en tout cas qui commence par une documentation du réel. Donc on a commencé à travailler avec sa méthode, et sa méthode c'est d'écouter ceux qui savent, et ceux qui savent c'est les collectionneurs, ce qu'on est ni l'un ni l'autre, donc il a été, lui et ses équipes, interviewés. Les collectionneurs qui ont dit leur rapport très particulier à cet objet. Et ce qui m'a touché, moi, au fond, ce qui a éveillé à la fois mon intérêt et ma rêverie, parce que il y a un moment où il faut quand même déjouer. Lui, il est du côté sensible, du théâtre du deuil. Moi, je serais censé être du côté du savoir, de l'historien. Mais enfin, il y a bien un moment où il faut quand même qu'on déjoue, on intervertit nos rôles. Et moi, je me suis dit, ah oui, ils sont vraiment courageux. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà de l'accusation de dédain. Ils affirment crânement leur passion. Et ça, ça m'a touché. Voilà, ce n'est rien d'autre que cela. C'est ce qu'on a voulu faire, c'est une sorte de petit théâtre. Bon, concrètement, c'est un théâtre circulaire, comme un théâtre d'anatomie, mais qui... du fait des contraintes sanitaires, c'est un peu évasé, c'est un petit peu adouci. Au départ, c'était un puits, comme les puits anatomiques où on va faire une anatomie au sens propre, c'est aller voir par soi-même, c'est ça l'anatomie. Là, ça s'est un petit peu écarté, adouci, ça ressemble à un rond-point, en fait. Et d'ailleurs, on avait commencé par ça, une réflexion sur le mépris social.
Vous parliez de la neige dans les boules à neige, mais il y a aussi les motifs qu'elle représente. Est-ce qu'en tant qu'historien, il y a des archétypes qui vous ont marqué ?
Alors, je suis évidemment pas historien de cette fin du 19e siècle, contente d'évoquer. ou de rappeler à soi dans cette performance, comme vous dites, mais je suis historien du Moyen-Âge, peu importe. Enfin, peu importe oui et non, parce que au fond, aujourd'hui, comme je travaille sur la peste noire, évidemment, toutes ces questions de villes confinées, parce que c'est ça, et quand même essentiellement, industriellement, enfin, c'est comme objet, disons, de globaliser, comme objet mondial, on dirait aujourd'hui une boule à neige, c'est pas du tout ce que je raconte, là, un objet du 19e siècle lié à l'exposition universelle de 1889. Non, c'est un objet fabriqué en Chine à très grande échelle et qui, au fond, décrit les hauts lieux touristiques du monde. Bon, voilà. Donc, d'une certaine manière, ce sont des villes emprisonnées ou leurs symboles monumentaux ou touristiques. Mais au-delà, il y a cette idée, avec la ville sous cloche, que effectivement s'emprisonne à la fois une sorte de, oui, de rapport au passé, de rapport à l'immensité du monde, mais aussi ce désir fou, et ça c'est les collectionneurs qui le disent lorsqu'on les entend, de contenir la méchanceté du monde. La première fois que une boule à neige est décrite à l'exposition universelle, justement, on dit pas tombe la neige, on dit elle contient une tempête de neige. Donc il y a quand même quelque chose de dramatique. Et puis nous, on est là dans ce petit théâtre entouré des boules à neige, et à un moment, c'est fragile, c'est frêle. Bah d'ailleurs, la preuve, hein, c'est que voilà, on ne le joue plus, on en parle, mais on ne le voit plus, ce qui crée d'ailleurs une communauté, c'est assez marrant, on reçoit plein de messages très touchants qui disent bah, « moi aussi, j'en collectionne ». Enfin, c'est vraiment c'est beau ce qui se passe, beau et triste ce qui se passe en ce moment. Et donc, il y a ce petit côté un peu fragile et naïf qui est de dire bah, « si, au fond, notre destin est emprisonné là, si on est tenu par ces petites choses qui contiennent la tempête du monde, ben, pourvu qu'elles tiennent, pourvu que ça tienne encore. » Donc il y a un côté, je pense que le fait que ce spectacle se fracasse contre les fractions du réel était malheureusement inscrit dans l'objet même.
Le passé et l'avenir, dramatique et ludique, c'est tout un théâtre sous un globe. Merci beaucoup Patrick Boucheron.
Et merci à vous Marie Sorbier.
France Culture, Affaires culturelles.